Il est 12h15 et le journal vous est présenté par Séverine Boé. Bonjour.
Bonjour. Le conseil de ville de Moutiers se réunit ce soir. Le législatif devra se prononcer sur un crédit de près de 950 000 francs pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les toits de l'entreprise Tornos. Les femmes du Parlement fédéral ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la réforme d'AVS 21. Les femmes de gauche sont contre, tandis que les femmes du centre et des partis bourgeois la soutiennent. Explication dans quelques instants. Cyclisme, aucun coup de pédale ne sera donné aujourd'hui sur le Tour de France. La grande boucle est marquée par une journée de transfert vers Dunkerque après trois étapes courues au Danemark. Bilan de ce passage danois avec Christian Prudhomme, président du Tour de France. Météo, des averses et des orages devraient refaire leur apparition dans l'après-midi. Un pic d'intensité est attendu entre le milieu d'après-midi et le début de soirée. Les températures oscilleront entre 21 et 24 degrés au meilleur de la journée. Moutiers veut étendre sa production indigène d'énergie renouvelable. Le conseil de ville qui se réunit ce soir se prononcera sur un crédit de près de 950 000 francs pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur les toits de l'entreprise Tornos. Le projet s'inspire de ceux qui ont été développés par les services industriels de Delémont sur des firmes de la ville. Les précisions de Raphaël Chalvera.
Si le conseil de ville prévotois donne son feu vert à ce projet de partenariat public-privé, des panneaux solaires garniront les toits de Tornos sur une surface de 3120 mètres carrés. Il s'agirait alors de la plus grande centrale photovoltaïque du parc de production des services industriels de Moutiers. Centrale qui devrait produire chaque année 659 000 kWh. Les services industriels fourniront l'énergie directement à Tornos à hauteur de 93%. Le solde sera réinjecté dans le réseau au profit de tiers. Les principes de construction seront identiques au projet déjà réalisé sur l'école de Chantemerle et la halle Polysport. Côté financement, le montant de 950 000 francs sera ouvert au processus de prêt citoyen. La municipalité, mais aussi les entreprises et les privés pourront participer à la campagne. Comme à Delémont, le taux de rétribution des prêts sera de 2,25%. Le contrat porte sur une durée initiale de 25 ans. Il sera ensuite renouvelable chaque année jusqu'à 40 ans.
Le conseil de ville de Moutiers se réunit donc ce soir à 19h30 à la Sociétale. Il se prononcera également sur les comptes 2021 qui bouclent sur un déficit d'un peu plus d'un million de francs. Les élus désigneront aussi les membres du législatif communal qui siégeront au sein de la commission spéciale mixte pour l'accueil de Moutiers dans le canton du Jura. Toujours dans la cité prévotoise, la première manifestation de soutien aux réfugiés ukrainiens organisée par l'association Solidaire a attiré près de 200 personnes samedi. Parmi les participants, environ 150 réfugiés qui ont notamment préparé le repas dans son intégralité. Comme le rappelle l'association dans un communiqué publié aujourd'hui, l'objectif premier était d'offrir une petite parenthèse de bonheur à des personnes déracinées en raison de la guerre, particulièrement aux enfants. La piscine de Tramelan a été visitée cette nuit. Une ou plusieurs personnes ont forcé le local de la caisse ainsi que la buvette. Des employés l'ont constaté ce matin. Le ou les malfrats ont tenté de meuler le coffre-fort mais ils ne sont pas parvenus à l'ouvrir. Plusieurs objets ont toutefois été dérobés, nous a confirmé tout à l'heure un employé de la piscine. La police cantonale bernoise s'est rendue sur les lieux. Une enquête a été ouverte. Un système de transport efficace, sûr et durable, c'est l'objectif de la stratégie de mobilité globale 2022 du canton de Berne. Le document adopté pour la première fois en 2008 vient d'être mis à jour par le conseil exécutif. C'est que le domaine de la mobilité a connu de nombreux changements en près de 15 ans. Olivier Zano.
La situation a évolué, on le sent particulièrement dans les zones urbaines où la population augmente et le trafic se densifie. Et puis surtout, le numérique pèse de plus en plus dans la mobilité. Le partage de véhicules, lui aussi, se développe, sans oublier la popularité des vélos électriques qui ne fait qu'augmenter. Il fallait donc prendre en considération tous ces aspects et mettre à jour la stratégie. C'est ce que le canton vient de faire avec un accent qui était mis sur des offres de mobilité plus flexibles, avec une mise en réseau des différents moyens de transport. On parle de chaîne de mobilité multimodale attractive, un nom un peu barbare, mais autrement dit, il s'agit de pouvoir rendre plus facile la combinaison des modes de transport sur un même trajet. Par exemple, stationner sa voiture, prendre un vélo électrique en libre-service, switcher sur le train, etc. La stratégie doit permettre de concevoir un trafic climatiquement neutre à l'horizon 2050, avec des nuisances sonores et lumineuses réduites au minimum.
Notez que la stratégie de mobilité globale a une valeur contraignante pour l'administration cantonale. Sa mise en œuvre sera contrôlée tous les 4 ans avec des remaniements possibles. Cet été, les lundis RGB vous propose de découvrir 5 femmes exceptionnelles du Jura bernois. Elles ont été sélectionnées pour le bien d'une exposition qui marque les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Des statues de ces pionnières ont été créées pour l'occasion. Ce lundi, pour débuter cette série, nous nous sommes rendus à Tavannes qui rendait hommage à l'une de ses citoyennes, Lydie Amy Faron. La directrice de Mémoire d'ici nous présente ce destin particulier, Sylviane Messerly.
C'est une dame qui est née au début du 19e siècle, en 1816. Elle meurt à la fin du siècle. Et puis, elle est surtout connue pour avoir été gouvernante en Russie. Donc, elle a quitté Tavannes à l'âge de 22 ans. Elle va travailler pendant un peu plus d'une vingtaine d'années au service de la noblesse russe.
Lors de son départ, la vie ici, en Suisse, elle n'était pas facile.
Elle naît en 1816. C'est l'entrée, la Tavannes entre dans la Confédération en 1815 avec le Congrès de Vienne. On est en particulier dans ces années-là, mais tout au long du 19e siècle jusqu'à l'introduction de l'industrie, on est dans une région qui ne peut pas nourrir sa population. Donc, elle, ses sœurs qui sont parties aussi, son frère qui est parti, et les centaines de personnes qui sont parties de cette région sont obligées de partir en exil pour pouvoir trouver du travail.
Il y a maintenant la statue sur l'espace public, à la vue de tous, devant l'hôtel de ville ici à Tavannes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait que cette statue évoque aux gens qui passent par là et qui vont voir cette silhouette, ce visage ?
Je pense qu'on peut lui souhaiter que les gens s'arrêtent, qu'ils la regardent. Elle a un peu une tristesse dans son regard quand on regarde la photo. Que les gens s'arrêtent pour lire son histoire, qu'ils s'imaginent aussi ce qu'a été pour les personnes du 19e siècle le fait de partir. Il y a des pages dans son journal où elle nous raconte comment elle quitte Tavannes, comment elle quitte sa mère. Pour nous, c'est facile, on a notre WhatsApp. Le soir, on dit « je suis bien arrivée, parce que toute la famille va bien ». Pour elle, voilà, quand elle quitte sa mère, elle ne sait pas si elle la revoit vivante. Et il y a chaque fois une déchirure qu'elle nomme ainsi. Et si nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut rendre hommage à ces personnes qui ont dû émigrer, c'est déjà un des éléments.
Il ne reste que peu de descendants directs de Lydie Amy Faron. Olivier Guerne de Tavannes en fait partie. Il était présent devant l'hôtel de ville de Tavannes pour découvrir la statue de son ancêtre.
Cette Lydie Amy Faron est mon arrière-grande-tante. Voilà, et puis on n'est plus que trois à être ses descendants finalement. Alors il y a une certaine, un petit prestige, si on veut, en disant « tiens, l'arrière-grande-tante qui est présentée ». Et puis c'est sympathique aussi de se dire « ben voilà, on se remémore d'elle en tant que femme d'exception, puisque ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est eux qui l'ont dit ».
Lundi prochain, notre série sur les femmes exceptionnelles du Jura bernois s'arrêtera à Vauflin, village qui a vu naître Élise Benoît-Huglet. Des femmes élues opposées à d'autres femmes élues. Les femmes du Parlement fédéral s'affrontent ouvertement d'ici au 25 septembre, lorsque les citoyens suisses décideront du sort d'AVS 21 et de la retraite pour toutes et tous à 65 ans. Contre la réforme, les femmes de gauche et des syndicats. Pour la réforme de l'AVS et la retraite harmonisée à 65 ans, les femmes des partis bourgeois et du centre, y compris les Verts libéraux. Les femmes de droite seraient-elles masochistes ? La conseillère nationale UDC, Céline Amaudru.
Non, je prône l'égalité. Je pense qu'une femme a autant de capacités, si ce n'est plus, de pouvoir travailler tout aussi longtemps qu'un homme. Non, je crois qu'il faut maintenant commencer à voir les choses de manière positive. Nous ne faisons pas cette réforme sur les dos des femmes, mais en faveur de nos aînés et également en faveur de la future génération. Nous devons assainir l'AVS, la renflouer, et il n'y a pas 50 solutions. Il y a deux options qui sont proposées le 25 septembre, c'est premièrement, augmenter l'âge de la retraite des femmes et deuxièmement, une participation au niveau de la TVA.
La TVA augmentera de 4 dixièmes à 8,1%. Le vote sur AVS 21 au Parlement a été un vote classique, gauche-droite, sans exception, sinon celle du centriste jurassien Jean-Paul Schwinn qui s'est abstenu. Avec des scores nets en faveur d'AVS 21, 31-12 au Conseil des États et 125-67 au Conseil national. Si on ne prend en compte que le vote des femmes du Parlement, c'est une toute autre configuration. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Hubin.
Il y avait lors du vote final sur AVS 21 le 17 décembre dernier, 98 femmes élues au Parlement fédéral, 85 au Conseil national et 13 au Conseil des États, 4 étaient absentes ou n'avaient pas le droit de vote comme la présidente du Conseil national Irène Kellin. Il en restait donc 94. Or, les femmes du Parlement n'ont pas pu se départager. 47 oui, 47 non à la réforme de l'AVS. 41 oui contre 40 non au Conseil national et 6 oui, 7 non aux États. Cela s'explique parce que les femmes sont en proportion bien plus nombreuses au PS et chez les Verts que dans les partis de droite. Un regard encore sur le vote des 25 femmes romandes du Parlement. Contrairement au vote global, largement favorable à AVS 21, le relèvement de l'âge de la retraite n'a obtenu que 9 voix chez les romandes contre 15 rejets. Il y a bien un match dans le match spécifique des femmes entre elles d'ici à la votation du 25 septembre.
En France, Emmanuel Macron a convoqué un conseil des ministres aujourd'hui à 16h, a annoncé le palais présidentiel, quelques heures après la nomination du nouveau gouvernement. Très attendu, la nouvelle équipe du président centriste libéral a été présentée 2 jours avant le discours général de la première ministre, Elisabeth Borne, devant le Parlement, contre laquelle la coalition de gauche, NUPES, n'a pas exclu de voter une motion de censure.
Vous écoutez RJB, il est 12h25.
Sport.
Les cyclistes du Tour de France ne sont pas sur le vélo aujourd'hui. La grande boucle est marquée par une journée de transfert vers Dunkerque après avoir vécu 3 étapes exceptionnelles au Danemark. Elles ont surtout été marquées par la ferveur du public qui était présent en très grand nombre au bord des routes. Le président du Tour de France, Christian Prudhomme, en a encore des étoiles plein les yeux.
Il y a au Danemark une ferveur absolument folle pour le Tour de France. Pendant tous les jours, nous étions ici, de la présentation des coureurs avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Au prologue, où les gens continuaient à sourire sous la pluie, ils étaient là, 500 000, 600 000, avec le sourire aux lèvres, même sous la pluie. Et puis hier, aujourd'hui, c'était tout simplement phénoménal. La ferveur des gens, la manière dont ils encouragent tous les champions, pas simplement les 10 Danois du peloton du Tour de France 2022, c'est quelque chose que j'ai rarement vu en effet. Et des gens super heureux et fiers d'accueillir le Tour. Ce qui était frappant aussi, c'est non seulement au bord de la route, mais dans les immeubles. Quand il y a des immeubles de 5, 6, 10 étages, où tous les étages, tous les balcons sont décorés, c'est absolument phénoménal. Ça veut dire que c'est un événement national. Nous sommes venus là chercher un succès populaire, mais c'est au-delà de nos espérances. Je dis souvent que ces départs de l'étranger, non seulement je les assume, mais je les revendique, parce que, à l'évidence, ça fait rayonner le Tour, ça fait à l'évidence aussi rayonner la France.
La 4e étape se lancera demain de Dunkerque vers Calais. Loris Benito revient à Young Boys, le latéral suisse de 30 ans qui évoluait dernièrement à Sion, a signé un contrat de 3 ans avec le club de football bernois. Loris Benito avait déjà évolué à IB entre 2015 et 2019 et remporté 2 fois le titre de Super League avec les Jaunes et Noirs. Nouvelle illustration de l'ingérence du conflit russo-ukrainien dans les carrières sportives de certains athlètes. Le gardien russe de hockey sur glace Ivan Fedotov a été arrêté après un entraînement à Saint-Pétersbourg pour avoir prétendument refusé de faire son service militaire. Il prévoyait de quitter son club du CSKA à Moscou pour la NHL et les Philadelphia Flyers. Il sera transféré dans une base militaire sur l'île arctique de Nouvelle-Zemble, connue pour abriter un ancien site d'essai nucléaire soviétique. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est le Flash à 13h. Excellente journée à l'écoute d'RJB.